qu'on va voir aujourd'hui, c'est un travail sur comment on fait. Voilà. Ce qu'on a travaillé, c'est le fait que pour aller d'ici à là, on avait besoin de vitalité. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est comment on fait. Et on a déjà répondu très rapidement hier que il y a deux choses qui sont importantes. C'est d'abord de travailler sur une charte relationnelle qui nous permet d'aborder ensemble cette question, qu'est-ce qu'on va changer, et d'en discuter de façon lucide en regardant la réalité de nos églises. Et en travaillant cette charte relationnelle, ça nous permet d'être en relation les uns avec les autres, de se dire aussi les choses telles qu'on les vit et telles qu'on les ressent, de nous laisser inspirer par la parole de Dieu et d'avancer ensemble. Et puis, d'avoir une équipe Vitalité qui, quelque part, travaille un peu en amont ce travail de vitalité. Ça, on l'a vu un peu rapidement. On va approfondir aujourd'hui et on va travailler sur le VIM. Alors, il faut savoir que tous les pasteurs de notre union ont fait leur VIM. Alors, c'est quoi un VIM ? Alors, ça, c'était le rappel hein, de... Voilà, les églises stables, crise et en danger, ces églises-là, on aimerait qu'elles deviennent des églises saines et missionnaires. Alors, le VIM, c'est d'abord la vision. Quelle est la vision du pasteur pour l'église ? Alors là, aujourd'hui, on va travailler le VIM... Pas pour le pasteur, ça a été fait. Je pense qu'il a fait avec David. On va parler du VIM pour l'Église. Quelle est la vision que vous avez pour votre Église ? Alors on va travailler ça, voir comment on peut faire. Et puis deuxième question, c'est quelle est l'intention que nous avons ? Et puis si nous avons une vision et des intentions, il manque quelque chose, les moyens. Voilà. Donc en fait, le VIM, c'est le moyen de préparer le projet de l'Église pour passer d'ici à là. Vous savez, quand on lit le texte de l'Exode, il y a plein de choses qui ne nous sont pas dites, mais déplacer tout un peuple qui devait passer d'ici à là, c'était compliqué. C'était quelque chose de forcément de très compliqué. Et vous savez ce qui s'est passé pour ce peuple ? Ce peuple, il a vécu des choses assez terribles. Hein. D'abord, c'était un peuple qui était esclave, qui était prisonnier. Ensuite, Dieu les a libérés de manière miraculeuse à travers les 10 plaies qui a montré au Pharaon que c'était plus possible de garder ce peuple. Mais aussi au travers de la mer Rouge qui s'est ouverte pour eux. Ils ont pu passer et une fois que les soldats ont voulu les poursuivre, la mer s'est rabattue sur eux. Et à la sortie de ça, il y a Myriam qui entonne un chant de louange en disant « Mais Seigneur, tu es un grand Dieu puisque tu nous as libérés. Tu as, on le chante ce chant des fois. Hein, tu as mis à plat cheval et cavalier. Tu as détruit tout ce qui nous poursuivait, tout ce qui nous rendait prisonniers. Tu l'as, voilà. » Et puis leur problème à eux, c'est que Vitalité, ça a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ils étaient dans le désert, ils ont été à la rencontre de Dieu. Moïse est allé sur la montagne, il a ramené la loi. Pendant que Moïse était là-haut, il se faisait un veau d'or en bas. Enfin, vous rappelez hein, toutes ces histoires incroyables, quoi. Et Moïse, en disant, mais on comprend, enfin, je comprends pas, il y a eu quand même des épreuves terribles. Et au bout de 2 ans et demi, ils arrivent près de là. Vous connaissez cette histoire, hein ? Il y a un truc là, et ils avaient connu tout ça, quoi, 2 ans et demi avant. Hein, ils connaissaient bien cette histoire-là. Ils sont arrivés là, et là, vous savez ce qu'ils ont fait, là ? Vous vous rappelez ce qu'ils ont fait ? On n'y va pas ! Ils avaient fait tout ça ! Ils arrivent devant là, comme ça, et là, ils disent, ah ben finalement, non, on n'y va pas. Et alors, il y a Moïse qui dit, mais c'est quoi cette histoire-là ? Mais vous avez vu ce que Dieu a fait pour nous ? C'est pas quelques géants qui vont vous faire peur ? Vous êtes malade ou quoi ? Il dit, non, on n'y va pas. Et Dieu est très en colère. Et il dit, cette génération ne rentrera pas. Et juste quand Dieu leur dit ça, il dit, ben si finalement on va y aller, vous vous rappelez ? Et ils y vont, ils se font plumer, et ils vont tourner 40 ans dans le désert. Ce qu'il faut qu'on soit clair, de toute façon, Dieu veut nous délivrer de notre esclavage, Dieu veut nous délivrer d'une église qui ne serait pas efficace, c'est sûr. Ce qui est terrible avec Dieu, c'est que il est d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on peut dire « Non, non, on ne va pas y aller. » Et Dieu ne va pas nous foutre des coups de pied au cul. Hein. C'est, on ne veut pas y aller, ben on n'y va pas. Ce n'est pas grave, hein. Je ferai avec vos enfants. Mais vous imaginez si un jour, nos enfants nous regardent dans le blanc des yeux en nous disant « Hé, les parents là, pourquoi vous n'êtes pas rentrés là ?» Vous imaginez l'épreuve que ce serait pour nous de ne pas rentrer là ? Si nous ne le faisons pas, ce sera nos enfants qui le feront. Mais je vous assure, le projet de Dieu, il gagnera. Ce n'est pas notre projet. Si c'était notre projet, on pourrait être effrayé. Mais c'est le projet du Seigneur d'avoir une église qui rentre dans la terre qu'il a prévue pour lui. Et cette terre, ce n'est pas notre culture évangélique. Cette terre, ce n'est pas notre désert à nous. Cette terre, c'est une terre où nous allons à la rencontre de nos contemporains pour leur témoigner que cela, il n'est pas que pour nous, il est aussi pour eux. Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils. C'est ça hein, le texte, Jean 3,16. Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, c'est le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et l'Église est le moyen que Dieu s'est donné. Mes amis, on est vraiment devant ce choix difficile, ce choix qui va nous coûter, ce choix... Enfin, je ne veux pas trop les condamner, les Hébreux. Il y avait de vrais géants devant eux et ils avaient vraiment peur. Et je crois qu'il ne faut pas négliger la peur que nous avons de changer. Nous connaissons nos habitudes, nous connaissons notre tradition, nous connaissons notre désert et on s'y est habitué finalement et des fois, ce n'est pas évident d'obéir à Dieu. Quand on voit une armée derrière nous et qu'on voit la mer devant nous, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? On n'imagine pas qu'il va ouvrir la mer. Quand on voit des géants devant nous, on voit des géants, on voit la réalité. Et c'est compliqué de voir la réalité avec la puissance de Dieu, avec sa parole qui nous dit, vas-y. Et bien sûr que nous croyons que Dieu est puissant, mais nous avons perdu l'habitude de vivre avec sa présence et les miracles qu'il peut opérer parmi nous. Vision, intention, moyen. Essayez de penser notre Église avec l'imaginaire de Dieu, avec sa parole. Non pas avec nos habitudes, non pas avec nos traditions, non pas avec notre désert ou notre esclavage, mais depuis ce que Dieu a pour nous. Alors la vision, c'est l'image de cette Église que saine et missionnaire que le Seigneur veut faire avec nous. C'est cette vision de Jésus qui va venir un jour et il va venir depuis le futur. C'est toujours étrange, hein. Jésus est parti de notre présent, il est monté au ciel et puis il va nous rejoindre là. Il va nous rejoindre dans cette réalité de notre Église et il nous dira est-ce que tu as fait sur la terre ce que je voulais pour toi. Je t'ai envoyé le Saint-Esprit et est-ce que tu as atteint ce futur que j'avais pour toi ? Jésus nous rejoint depuis le futur. La vision, c'est ce qui met les gens en marche. Et on vit ça en ce moment à Valence et c'est vraiment génial. Quand il y a des gens qui s'engagent pour être membres, on leur demande de donner un témoignage et souvent ils disent « On est heureux d'être membre d'une église qui a des projets. » Le projet, la vision, ça met non seulement l'Église en marche, mais ça donne vraiment un vecteur, une perspective qui donne envie de s'engager dans cette Église. La vision donne une cible. La vision permet aux rêves de devenir plus importants que les souvenirs. En fait, notre imaginaire, il est soit occupé par le passé, soit occupé par l'avenir. Si nous laissons le passé envahir notre imaginaire, nous n'avons plus de place pour pour le rêve. Et c'est important d'avoir une vision et que cette vision soit inspirée par le projet de Dieu pour son Église. Les intentions. Alors les intentions, c'est la décision d'avancer, la décision d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter en route, ce qui serait le pire. La volonté de vivre et d'être rempli de cette vitalité que Dieu nous a donnée. C'est tout simplement de dire avec Dieu, avec l'aide de Dieu, eh bien, nous accomplirons sa mission. Si Dieu nous a donné une mission, il va nous en donner les moyens. La volonté de considérer le coût et d'être prêt de payer le prix. Et je voudrais tout de suite dire que ce que Dieu nous demande n'est pas si facile que ça. Il nous demande de compter sur lui. Et on est dans un monde où on a appris à ne compter que sur soi. Et nous sommes imprégnés par cette culture. Et c'est difficile de laisser Dieu diriger notre vie. La volonté de poser les bonnes questions et d'agir en conséquence. C'est-à-dire, on réfléchit à l'Église, on voit ce qu'il faut corriger, mais on n'en reste pas là, on se donne les moyens d'y aller. Alors, on a vu hier l'histoire du semeur qui sortait pour semer. Et je crois que l'Église, c'est la terre. Et il faut commencer avec la terre. La graine, elle va porter des fruits. Ce n'est pas le souci. Le problème, c'est est-ce que l'Église est cette terre qui accueille cette parole et qui la laisse grandir ? Donc, c'est dans Marc 4, à partir du verset 1. Alors, voilà. Il y a plusieurs perspectives sur c'est quoi l'Église. Alors il y a cette perspective, vous savez, des fois il y a des gens qui mettent des pierres comme ça et ils font un petit bout de oh, regarde, il y a voilà. Mais là, à votre avis, est-ce que ça va donner beaucoup de choses? Ça va donner quelque chose de cadré, de posé. Et il faudra des fois enlever les ronces, les épines, il faudra enlever l'herbe. Mais la vision que le Seigneur veut nous donner de l'Église, voilà, vous voyez, c'est autre chose. C'est pas juste un petit jardin bien clôturé, c'est pas juste un petit truc. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et préparer le terrain, c'est pas juste préparer le terrain de l'Église, c'est préparer le terrain aussi que nous allons investir, qui est notre entreprise, qui est nos amis, nos voisins, nos associations, là où nous nous engageons en tant qu'Église. Le terrain, ce n'est pas juste cette maison clôturée. Le terrain, c'est la ville. C'est la ville que le Seigneur veut investir. Alors, juste parler de la théologie de vitalité. Il y a une théologie, il y a une idée claire de qui est Dieu pour l'Église. Dieu, c'est celui qui rachète toute réalité. Et il a payé le prix fort, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et la vitalité, ce n'est surtout pas un programme, ce n'est surtout pas un système, ce n'est surtout pas des structures. C'est cette idée très claire que la mort de Christ nous a rachetés, mais nous a rachetés pour que nous rentrions à son service. Nous sommes, l'armée du salut qui dit ça, nous sommes sauvés pour servir. J'aime bien cette idée de sauver pour servir. Il y a trois choses sur lesquelles va démarrer finalement notre vitalité. C'est la prière. Je crois que ça ne va pas démarrer par on va se réunir. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se réunir et on va dire Seigneur, on veut de nouveau se fonder sur toi. On veut que nos racines aillent chercher là où est la vitalité. C'est dans la terre. On veut creuser, on veut enlever les pierres et les épines de notre terrain à nous, là, et on veut aller creuser. Et pour ça, on a besoin, je crois, de nous rappeler de quoi nous avons été sauvés, qui nous a sauvés, comment nous nous sommes convertis, comment on est venu à Christ. Il faut certainement se repentir d'être resté dans notre désert et d'avoir tourné en rond si longtemps. Et puis prier, Seigneur, montre-nous ta vision, montre-nous ce que tu veux pour nous. C'est là qu'est la vitalité. C'est dans le ciel. Bizarrement, on va aller chercher la vitalité, pas simplement dans... C'est pas ici que ça va se trouver, c'est dans cette relation avec celui qui va nous conduire tout le long. Et Dieu a un projet pour nous en Jésus-Christ. Et ce Dieu qui avait un projet, eh bien, nous fait réaliser combien nous avons besoin chaque fois, à chaque étape de lui. Le Christ, quand il est parti, nous dit, je vous envoie mon esprit. Vous avez besoin, avec mon esprit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. C'est incroyable d'entendre Jésus dire à ses disciples, je ne vous considère pas simplement comme des serviteurs, je vous considère comme des amis. Et vous ferez de plus grandes choses que moi. La théologie de la vitalité, elle se base bien sûr sur le Père, sur le Fils. Nous sommes centrés sur le message du Christ, sur ses méthodes, comment il a fait, comment il a été lui-même parmi les gens. Jésus était rarement enfermé dans une synagogue. Bien sûr, de temps en temps, il y allait, mais on le voit tout le temps dans des repas, on le voit toujours dehors, on le voit toujours avec une foule, sur un bateau. Enfin, on le voit dans plein de circonstances très différentes, en train de cheminer. Quand on voit l'apôtre Paul, pareil, c'était pas quelqu'un qui restait à un endroit et les gens venaient vers lui. Il est allé. Et je dirais que la raison d'être de la vitalité, c'est pas juste de dire « Oh là là, la situation de notre Église exige qu'on bouge », mais ce serait bien que nous soyons renouvelés dans la mission qui coule du cœur du Christ. C'est-à-dire que nous soyons remplis de compassion pour les âmes qui se perdent. Enfin, la vitalité, c'est un mouvement du Saint-Esprit qui se passe souvent de façon surprenante et non prévue. C'est-à-dire qu'on va faire des programmes, etc., mais on va être aussi à l'écoute de ce que Dieu nous inspire. On va être à l'écoute de ce que Dieu va faire au milieu de nous, dans sa présence. Donc, cultiver une dépendance consciente vis-à-vis du Saint-Esprit nous permet d'être plus ouverts et proches de Dieu. Et puis, il y a la vitalité en action. La vitalité, ça démarre sur notre réalité. Il y a des belles choses dans notre réalité, mais on veut avoir une évaluation précise et honnête. Hier, je ne sais pas si ceux qui étaient là vous rappelez, il y a eu ce moment-là de dire « Notre Église va bien, notre Église est en situation positive, il y a des bonnes choses, il y a des nouveaux, mais on n'atteint pas encore tout à fait la ville de Melun. On n'atteint pas vraiment. C'est quand même pas mal de chrétiens venus d'autres églises. Voilà, on voudrait aller plus loin. Voilà, c'est commencé par cette réalité. Et il n'y a pas de vitalité sans réalité. Voilà. C'est ces gens-là qui vont aller là. C'est pas juste un rêve, quoi. Partons de notre réalité et voyons ce qu'on peut faire. La vitalité entraînera sûrement de l'opposition et des conflits. Il faut être conscient de cela. Il faut savoir que dire à un groupe « on va aller ailleurs que là où nous sommes », il y a tout un ensemble de gens qui vont dire « et pourquoi ? On est bien là ! Pourquoi vous voulez aller ? On est bien ici, pourquoi vous voulez aller là ? » C'est stupide, quoi. On a une église qui va bien, pourquoi on va se poser des questions qu'on ne se posait pas et pourquoi on voudrait changer ? C'est très très bien comme c'est. Et on va voir tout à l'heure que ces conflits sont pas à négliger, quoi. Se préparer pour un tel défi nécessite du courage, de l'espoir, de la persévérance, de la sagesse, de la miséricorde et de l'entraînement. Et puis, c'est un effort collectif qui nécessite trois choses. D'abord, une communauté en bonne santé. On va pas partir sans d'abord s'être soigné, s'être préparé, s'être formé. Deuxièmement, il faut des leaders efficaces. Et troisièmement, il faut un travail d'équipe. Alors ça donne un petit jeu de mots stupide, d'accord. C'est la clé de la vitalité. Mais bon, c'est un moyen de se rappeler ça. On a besoin d'une communauté qui est décidée, qui est prête, qui est préparée. On a besoin de leaders efficaces et on a besoin d'un travail d'équipe qui accompagne. Ensuite, la vitalité est la responsabilité de chaque église, quel que soit son état actuel. Oh là là, il y a une super faute là, sur son état actuel, désolé. C'est une traduction, donc... voilà, donc sans vous oublier le T, d'accord. Les églises ont besoin d'investir dans leur propre vitalité. La vitalité n'est pas dépendante de l'âge, de la taille, du lieu, du style et des performances passées, mais d'habitudes saines. L'église a un besoin constant de renouveau. Et l'idée que, quelle que soit la situation de l'église, on peut partir de cette réalité-là et on peut. On ne peut pas dire à un moment donné... Non, on ne peut pas bouger, ce n'est pas possible. On s'y prépare, d'accord, il faut peut-être un petit peu de temps pour se préparer, mais toute église est appelée à devenir saine et missionnaire. La vitalité prend plus de temps que prévu. Ça, c'est aussi une mauvaise nouvelle. En fait, il y a trois mauvaises nouvelles. Là, on est déjà à la deuxième. La première, c'est que ça va générer des conflits. Oh, on est une église qui s'entend bien, il n'y a pas de conflit, on ne va pas en générer, ce n'est pas possible. Voilà, si on veut avancer, il y aura des conflits. Deuxième mauvaise nouvelle, ça va prendre plus de temps que prévu. Donc, ça va amener du désordre, ça va amener plus de coûts que prévu et plus de détermination que prévu. Voilà, il faut le savoir à l'avance et je pense que c'est important de s'y préparer. Et c'est le dernier point. La vitalité est décuplée par l'effort commun. Si on sent qu'on est ensemble, du coup, on prend le courage d'assumer ces choses-là. Souvent, ce qui a été le problème de Moïse, ça a été sa solitude. Il y a un moment donné, son beau-père qui vient le voir en disant « Mais t'es trop seul, là. » Et puis, il va désigner 70 personnes, je crois, qui vont recevoir l'Esprit-Saint et qui vont former une équipe avec lui. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour la vitalité. À un moment donné, si on sent que l'équipe est un petit peu juste, et il faut élargir, il faut transmettre. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine d'être une équipe et de ne pas rester seul, parce que ça peut être épuisant. Donc, la vitalité en action. Et puis, les moyens qui sont mis en route, c'est voir toutes les ressources disponibles pour accomplir la vision et poursuivre selon nos intentions. Et il y a deux manières de regarder, soit une réflexion passive en disant « Ah ouais, mais on manque de ça, on manque de ça », ou bien une réflexion active qui consiste à dire « Quels sont les atouts que nous avons ?» Et je veux pas vous lancer des fleurs, mais franchement, entre votre potentiel et votre réalité, vous avez de la marge. Hein. Vous êtes conscient de ça ? Vous avez un potentiel assez étonnant quoi, à Melun. Enfin, en tout cas, Melun, le pays de l'heure, je pense aussi. Vous avez des atouts qui sont assez exceptionnels. Je suis sûr que vous êtes conscient de ça, qu'entre votre potentiel et votre réalisation, il y a de quoi faire. Quoi. Et c'est intéressant hein, de travailler ça et de voir comment Jésus a fonctionné. Jésus a toujours fonctionné avec les moyens qu'il avait. Qu'est-ce que vous avez ? Bon, il y a 5000 personnes à nourrir. On a 5 pains de poisson, super. Et les disciples, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Vous voyez le côté réflexion passive ? Ils voient le manque, quoi. 5 pains de poisson, tu ne vas pas aller loin, quoi. Tu vas nourrir 2 personnes, quoi. Il y en a 5000 à nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus, lui, dit, c'est pas mal. On part de ça, quoi. Et ça, je trouve très intéressant, hein, sur le plan spirituel, de se dire, voilà, on n'a que ça, mais on y va. Voilà. Je pense le coup que Jésus a fait là, qui est terrible, c'est que c'est pas Jésus qui a pris les 5 pains et les 2 poissons qui a commencé à les distribuer. Relisez le texte. Il demande à ses disciples de faire asseoir les gens en ordre. D'ailleurs, les gens sont prêts à recevoir de la nourriture. Et il dit à ses disciples, commencez. J'imagine le trac incroyable qu'ils ont dû avoir. 5 pains et 2 poissons. Et quand ils lèvent la tête, ils voient plein de monde très 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 loin là. Ils disent, mais ça ne marchera pas, quoi, ça ne marchera pas. Et puis, petit à petit, en avançant, le panier est toujours plein. Ça dit quoi ? Ça dit que l'objectif de Jésus n'est pas de nous mettre dans une sécurité. Moi, ce que j'aurais aimé, ce que Jésus fasse, c'est qu'il prenne les 5 pains et les 2 poissons, il fasse un gros miracle, là, tout d'un coup, les 5 pains et les 2 poissons, ça se transforme en quantité de pain et de poissons, et puis... voilà. Et puis après, on distribue. Ça me va. Moi, c'est ça que j'ai envie de demander à Jésus. Ici, donne-moi tous les moyens. Donne-moi l'argent, donne-moi les locaux, donne-moi le personnel. Et après, une fois que tu m'auras donné tout ce qui me manque, je vais avancer. Mais regardez la méthode de Jésus, c'est jamais ça. Il met les disciples dans une situation compliquée. Ils n'ont pas les moyens de nourrir la foule. Mais il leur demande, à partir de ce que vous avez, commencez. Et là, il y a l'intervention du Seigneur. Il a fait le coup aussi avec, vous savez, cet homme qui demande qui guérisse son fils. D'abord, il lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Il avait son fils qui était malade, quoi. Je veux que tu guérisses mon fils. Et puis, crois-tu que je peux le faire ? Si je ne le croyais pas, je ne te l'aurais pas amené. Non, mais sérieux. Mais ce n'est pas une question bête. Ce n'est pas une question bête. Parce que le gars répond, je crois. Mais à la fois, j'ai tellement essayé de choses. J'ai tellement essayé de méthodes. J'ai tellement cru et j'ai tellement été déçu dans ma vie. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. C'est pour ça que tout démarre sur la prière. Je crois qu'il faut d'abord demander à Dieu, Seigneur, renouvelle notre cœur. Parce qu'on a eu des échecs, parce qu'on y a cru et puis on a été déçus. On a amené des amis à l'église et puis ils ne se sont pas convertis tout de suite. Il y a eu des choses comme ça qui nous ont, qui nous ont rendu un petit peu durs, qui ont rendu notre terre, notre terrain, rempli de pierres et d'épines. Nous avons de l'amertume dans le cœur, nous avons des regrets, nous avons des choses que Jésus voudrait changer. Et il voudrait qu'au lieu de voir nos manques, eh bien on voit l'atout. Waouh, vous avez 5 pains et 2 poissons, c'est génial! Ça devait pas toujours être facile d'être disciple de Jésus. Hein. Des fois, on les regarde en disant mais qui sont crétins, ils savent pas que parce que nous on connaît la fin de l'histoire. Mais eux, ils étaient au début, quoi. Et c'est pas évident à vivre. Et vraiment, c'est une des choses les plus difficiles. C'est que Dieu nous bénit, mais avant de nous bénir, il veut qu'on croie et qu'on se lance. C'est pas juste croire ta parole, c'est y aller, quoi. Tu me demandes de jeter mes filets, Pierre jette ses filets. Et au départ, il a du mal à y croire. Toute la nuit, il a jeté ses filets. Et Jésus lui dit, tu vas voir, lance tes filets, tu verras. Et crois que le Seigneur peut le faire. Alors, les moyens, c'est donc cet état d'esprit d'y aller franchement, avec les moyens que l'on a, de commencer déjà à rentrer sur ce chemin de la vitalité. Commencer à cheminer alors qu'on sait qu'on ne peut pas arriver au bout avec les moyens qu'on a. Mais on y va. Alors à Valence, c'est avant d'avoir des nouveaux locaux, on a doublé le culte. Et ça nous coûte, ce n'est pas évident de faire 2 cultes parce que ça demande aux équipes de louanges de faire 2 fois la même chose. Ça demande aux prédicateurs de prêcher 2 fois. Ça demande de se lever plus tôt. Ça demande des efforts. Mais l'objectif, c'est d'atteindre plus de monde et avant d'avoir des nouveaux locaux, on va faire avec les moyens que l'on a. Presque tout repose sur le leadership. Il est nécessaire d'avoir un pasteur missionnaire en bonne santé pour conduire une église missionnaire. Mais c'est votre cas, non ? Il pète la forme, ce pasteur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On peut passer au point suivant. Hein. Mais il est nécessaire que ce pasteur soit entouré d'une équipe. Il ne va pas y arriver tout seul, quoi. Il ne suffit pas d'avoir un leader qui dit « Allons-y, il faut une équipe. » Il faut une équipe qui pense à plusieurs choses. Pourquoi ? Parce que votre pasteur, il a d'énormes qualités, mais il a aussi besoin d'être aidé sur ses points faibles, d'être accompagné, d'être soutenu par une équipe de responsables. Ça, c'est aussi un changement de mentalité pour nos églises. Arrêtez d'avoir des ministères isolés. Vous savez que c'est la mort de l'église d'avoir accepté que le pasteur soit seul. Je crois au ministère pastoral. Je crois que c'est important d'avoir un leader dans l'Église. C'est le pasteur. On est d'accord. Mais il ne faut pas que ce pasteur soit isolé dans son ministère. Moi, j'ai vécu des années à tourner en rond, comme Élie, vous savez, dans sa grotte, là, en disant, je suis tout seul, Seigneur, je suis tout seul. Et chaque fois, il me disait, mais non, il y a des gens autour de toi. Et aller les chercher et partager avec eux la vision et se faire accompagner. C'est tellement important dans le ministère. Pour que les ministères tiennent, il ne faut pas que les ministères soient isolés. Même Paul, il avait des compagnons. Il n'était pas isolé. Les disciples allaient deux par deux. Alors pourquoi on a besoin d'avoir une équipe ? D'abord parce que pour ce projet Vitalité, on va avoir besoin de leaders qui soient catalyseurs et de leaders stabilisateurs. Vous savez, un enfant, quand il naît, il a un papa et une maman. Vous savez à quoi ça sert, un papa ? Ça sert à foutre des coups de pied au cul de son enfant. Et une maman, ça sert à quoi ? Quand l'enfant pleure, il va dans les bras. « Ah, papa, il m'a foutu un coup de pied au cul !» Non, c'est pas comme ça. Et puis des fois, les mamans jouent les rôles des papas et inversement. Mais un enfant a besoin qu'on lui dise de temps en temps « Allez, c'est bon, quoi. Arrête de pleurnicher, bouge-toi. » Mais il a besoin aussi de consolation, il a besoin d'être rassuré. Une église, c'est pareil. On a besoin d'un papa et d'une maman. On a besoin de quelque chose qui nous bouge, d'un principe qui nous bouge. Et d'un principe qui nous rassure. Mais oui, ça va le faire, ça va marcher. Alors, s'il n'y a qu'un catalyseur, il va rassembler et avancer, mais il va aller tellement vite que ça va poser des problèmes. Un stabilisateur, il va renforcer et approfondir. Ce n'est pas les mêmes choses, mais une église a besoin de ces deux éléments, rassembler et avancer, renforcer et approfondir. Je donne un exemple, à Valence, on a fait... On a fait les week-end impact, on a atteint des gens de l'extérieur, mais au bout d'un moment, les équipes étaient incomplètes et vraiment la nécessité de la formation de disciples C'est, voilà. Il y en a qui nous ont reproché, ouais, vous voulez une église missionnaire, mais on va avoir une église plein de nouvelles personnes, mais personne qui connaît bien la parole de Dieu, qui est formé pour servir. Ben voilà, on a fait impact, et puis après on a fait des formations de disciples. S'il n'y avait qu'un catalyseur, eh ben, on arriverait au chaos. C'est-à-dire qu'il y aurait des locomotives qui avanceraient comme une élastique. Vous savez, vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez dessus. Vous savez ce qui arrive à force de tirer sur une élastique ? Ça vous pète à la, voilà, ça vous pète à la figure. On ne peut pas toujours vouloir avancer et avancer trop vite vers là. Il faut y aller en douceur. Mais le stabilisateur, si on l'écoute, on prépare tellement qu'on n'avancera pas. Et vous voyez, le souci, il va être quelque part dans l'avancée, et c'est là que la préparation de l'Exode est intéressante. Hein. Il va falloir à la fois y aller, et à la fois, il va falloir y aller tous ensemble. Quoi. Alors, on connaît tous hein, des catalyseurs et des stabilisateurs. Les catalyseurs, c'est des lions, quoi. C'est voilà, la lionne d'hier, qui fonçait vers sa gazelle. Elle fonce là, waouh, comme ça. Et on voit le pasteur. Hey, oh. Moi, ça m'est arrivé ça quand j'étais pasteur à Salon de Provence. Je fonçais comme un malade, je faisais des trucs. Et de temps en temps, je me retournais, il n'y avait plus personne. Quoi. J'étais tout seul parce que j'allais beaucoup trop vite. Et une fois, j'avais Pierre Lacoste, donc pas le fils, le père, qui était président de l'église. Il vient me voir et dit, je démissionne. Alors je dis, pourquoi ? Il dit, écoute, j'ai les deux pieds sur le frein. Et la voiture, elle continue d'avancer. J'y arrive plus. Vas-y, fonce si tu veux, mais j'en ai marre, quoi. Et je tirais trop fort. Et du coup, voilà, il a fallu renégocier pour qu'il reste là et que j'écoute le frein aussi. Tant en temps, il fallait stabiliser, c'était son rôle. Le stabilisateur, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui y va doucement. Le catalyseur, c'est la bougie du moteur, celui qui met l'étincelle. Et le stabilisateur, c'est le pare-choc. Celui qui calme les conflits, celui qui fait que les chocs ne soient pas trop violents. Catalyseur, c'est le gouvernail. Stabilisateur, c'est la quille du bateau. Des images, hein, tout ça. Catalyseur, c'est le chargeur. Et le stabilisateur, c'est le consolateur. Catalyseur, c'est le capitaine. Stabilisateur, c'est l'aumônier. Catalyseur, il est à fond et déchaîné. Stabilisateur, c'est lentement et sûrement. Pourquoi prêtre camping-car, je sais pas. Il manque un mot là. Voilà, c'est ça. Il y a eu un bug là. Prophète et prêtre, c'est intéressant aussi. Hein, le catalyseur, il a une vision sur le long terme. Le stabilisateur, il nourrit l'Église. Catalyseur et bulldozer. Le stabilisateur, c'est le camping-car. Le catalyseur veut faire les bonnes choses. Le stabilisateur veut faire les choses bien. Vous voyez, c'est complémentaire. Hein, je ne sais pas, vous, comment vous vivez les choses. Et chaque fois, dans un conseil, c'est un peu les questions. Quoi. Ouais, il faut faire ça. Ouais, mais est-ce qu'on est sûr de les faire bien, hein, c'est, voilà. Catalyseur, il faut que ça avance. Le stabilisateur, oui, mais tous ensemble. On veut faire bouger le bateau. Bah, il faudrait déjà qu'il flotte. Le catalyseur, il est révolutionnaire. Le stabilisateur, il pense à une évolution. Catalyseur et entrepreneur, le stabilisateur et manager. Catalyseur crée du conflit, stabilisateur évite les conflits. Ça aussi, c'est des personnalités. Moi, j'adore les conflits. J'adore ça. Non, mais sérieux, hein ? C'est terrible et ça embête les gens parce que des fois, ils créent des conflits et ils créent le conflit pour m'embêter, quoi. Or, moi, quand je vois un conflit, je suis tout content. Il y a rien qui m'embête plus que ouais, on aime le pasteur, on aime le conseil, on aime l'église. Alors, je m'ennuie, quoi. Quand à une assemblée générale, il y en a qui disent « Ouais, il y en a marre !» Ah, quelque chose d'intéressant. Ouf, ça va. Mais c'est des personnalités, il y en a qui ont horreur de ça. Et Gemma, avec qui je travaille, elle, si elle peut éviter les conflits, des fois, elle me dit « JP, non, pas de conflit, ça sert à rien, c'est nul !» Enfin, voilà. Mais c'est des questions de personnalité. Et voilà, on est différents les uns des autres, hein. Le stabilisateur aime l'uniformité, le catalyseur aime le changement, le catalyseur aime la mission, le stabilisateur, ben, il faut déjà qu'on soit amis dans l'Église. Vous savez, des fois, on a cette réflexion, ce serait bien que notre Église soit davantage missionnaire. Et la réponse, c'est souvent, Ouais, mais on ne s'occupe pas déjà des gens de l'intérieur. Et c'est les deux, non? C'est pas parce qu'on veut être missionnaire qu'on ne veut pas s'occuper des gens de dedans. Et il va falloir faire les deux. On est d'accord là-dessus. Et ce serait dommage que dans notre réflexion, on renonce à la mission parce qu'on ne s'occupera jamais à fond de tout ce qui sont dedans. Il va falloir faire les deux ensemble. Voilà. L'idée, c'est qu'au lieu de, au lieu que ces éléments-là soient mis en opposition dans un projet de vitalisation de l'Église, on les rassemble. Si notre pasteur est plutôt stabilisateur, il y a des fois des églises qui disent « Mais on ne peut pas avoir de projet vitalité, notre pasteur il est gentil, quoi, mais il est super stabilisateur, il est super cool. » Mais ce n'est pas grave, il y a certainement des éléments dans l'Église qui peuvent être catalyseurs et qui peuvent l'aider à l'être. Et inversement, hein, une église où il y a un catalyseur qui effraie un peu, de dire, ben, c'est pas grave, on va entourer le pasteur pour que... Voilà. Juste de noter, on ne peut pas être l'un et l'autre. Ça n'existe pas une personne qui est à la fois catalyseur et stabilisateur. C'est des fois ce qu'on demande au pasteur. Moi, j'en ai souffert dans mon ministère de me retrouver dans un rôle de stabilisateur. Et je sais le jouer parce que je n'ai pas envie de faire du mal à mon église. Donc des fois, je me suis retrouvé en train de jouer le modérateur, de calmer... d'expliquer, mais non, c'est pas tout à fait ce qu'on a dit, le diplomate, mais j'ai horreur de ça, je sais pas bien le faire. À un moment donné, je vais mettre de l'huile sur le feu, c'est obligé, quoi. Chacun, on a un tempérament. Et pourquoi on jouerait pas notre caractère, notre tempérament à fond? En équilibrant, le stabilisateur sait qu'il a besoin d'un catalyseur et le catalyseur sait qu'on a besoin d'un stabilisateur. Vous voyez, rien que là-dessus, il faut un travail d'équipe, parce que l'Église a besoin de ces deux éléments pour avancer au niveau des moyens. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Voilà, c'était pour ça surtout. Voilà. Une Église saine et missionnaire donne la même importance à un stabilisateur et à un catalyseur. Dans une Église stable, ils s'opposent et du coup, ils se neutralisent. Vous voyez le problème, hein? Dans le conseil, on discute, il y en a qui disent « Ouais, il faudrait faire ça », puis l'autre « Ah non, il ne faut pas le faire ». Et du coup, il ne se passe rien. Et la réflexion, c'est comment faire en sorte que les stabilisateurs et les catalyseurs, je dirais, au lieu de s'opposer, se complètent pour y aller. C'est pareil pour les églises qui sont en crise et dans les églises en danger, le catalyseur, il a pas son mot à dire. C'est laisse tomber, quoi. Alors, je voudrais qu'on se pose des questions et là, vous allez pouvoir participer. Avons-nous la vision de devenir une église missionnaire et en bonne santé? Alors, est-ce qu'on a compris pour nous le message et la mission de Jésus? Est-ce qu'on a bien réalisé que Jésus demande plus à l'église de Melun et à l'église du pays de l'Eure. Est-ce qu'on en est conscient de ça? Je n'ai pas envie d'insister parce que je suis persuadé que vous allez être convaincus de ça. Je n'ai même pas besoin de vous convaincre. Le message et la mission de Jésus nous envoient plus loin que dans notre zone de confort et de sécurité. Comprenons-nous quelle est notre unique approche de cette question? Là, je n'ai même pas compris la question. Je vais à la suivante. Comprenons-nous comment communiquer la vision avec clarté et urgence? Et déjà, pour la communiquer, il faut qu'elle soit claire pour nous, hein, il faut la définir, bien sûr. Comprenons-nous comment aider les gens à adhérer à cette vision? Et c'est l'inquiétude que quelques-uns m'ont déjà posée en disant « Ben ouais, on vit quelque chose là ce week-end, comment on va le communiquer à ceux qui n'étaient pas à ce week-end ?» Comment on va le faire? Est-ce qu'on a l'intention de devenir une église missionnaire en bonne santé? Sommes-nous prêts à venir devant Dieu avec un sentiment de faiblesse et de désespoir? J'ai mes 5 pains et mes 2 poissons et tu me demandes de nourrir une foule. Je peux juste nourrir mon groupe maison avec ça. Et encore, ça va être juste. Sommes-nous prêts à compter le prix que ça va nous coûter? Sommes-nous prêts à nous regarder dans le miroir de façon honnête, entre notre potentiel et notre réalisation? Est-ce que nous sommes prêts à assumer ce potentiel que le Saint-Esprit nous a donné? Est-ce que nous sommes prêts à suivre l'Esprit là où il nous conduira? Est-ce que nous sommes prêts à vivre une expérience de plénitude, de joie, d'euphorie en devenant une église missionnaire? Est-ce que nous sommes prêts à persévérer malgré les difficultés que vont entraîner ces changements? Je vous propose de nous arrêter sur ces questions et juste d'avoir un temps de prière sur ces questions-là. Seigneur, si tu nous mets dans cette situation-là, où tu nous proposes un défi qui est trop grand pour mon imaginaire, qui est trop grand pour tout ce que je connais, tout ce que j'ai connu, est-ce que je suis prêt à reconnaître ma faiblesse devant ça, ma peur? Moi, je vous le dis, honnêtement, j'ai encore peur. J'ai encore peur. Et pourtant, j'ai vu des super belles choses. Et déjà, Dieu m'a montré tellement combien il était actif dans cette démarche-là. J'ai peur. J'ai peur parce que je crois que dès qu'on va avancer de la moitié, on verra que le territoire que Jésus met devant nous est tellement plus grand que ce que nous avions imaginé. Alors je vous propose de ne pas nous payer de mots, de juste nous placer devant Dieu, qui est là ce matin avec nous, et juste lui dire là où on est prêt, là où on n'est pas prêt. Je crois que tout à fait lucidement, il faut que chacun d'entre nous, on regarde cette liste en se disant, là oui, ça ne pose pas de problème. Et selon nos tempéraments, il y a des questions auxquelles on répond, ouais, il n'y a pas de souci. Et d'autres, on dit, oups, là c'est un peu compliqué. Voilà, plaçons-nous devant Dieu et ayons ce temps de prière court. Chacun peut faire une phrase comme ça, enfin voilà, on peut prier ensemble. Le problème du peuple dans le désert, ça n'a pas été juste leur manque de foi pour entrer dans la terre promise, ça a été aussi le veau d'or. À un moment donné, ils ont dit, oh là là, le Dieu de Moïse, il est trop loin là, il est perché sur sa montagne là. Nous, on voudrait quelque chose de plus domestique, quelque chose qui soit plus cadré, quoi, qui soit plus... Puis ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, on a connu des veaux d'or en Égypte, voilà. Dieu, il va ressembler quand même à ce qu'on connaissait avant. Aujourd'hui, ça se matérialise autrement. Hein. Je ne crois pas que nous faisons dans nos églises des veaux d'or, surtout en tant qu'évangélique. On n'aime pas les images, tout et tout. Mais il y a deux choses intéressantes quand même. Hein. L'or, aujourd'hui, ce n'est pas l'or, c'est l'argent. La question des moyens, quoi, financiers. Des fois, il y a des projets qui butent là-dessus, quoi. Sur les moyens financiers. Et puis, il y a autre chose qui pose problème, c'est le temps. Le temps que nous avons, on n'en a pas beaucoup. Il y a tellement de choses qui nous sollicitent, hein, nos loisirs, nos familles, notre travail, nos responsabilités, nos engagements, etc. Les amis, si notre Église appartient à Dieu, si chacun d'entre nous, nous appartenons à Dieu, nous allons lui consacrer notre temps et notre argent. Et lui dire, tout ça, ça t'appartient. Et c'est un défi, je dirais, personnel, individuel, qui nous est lancé à chacun d'entre nous. Seigneur, qu'est-ce que je fais de mes biens? Et qu'est-ce que je fais de mon temps? Et si on dit, vous savez, quand on fait visiter notre maison, selon les personnes, on n'a pas la même procédure. Le vendeur de pizza, il reste souvent dans votre devant, quoi. Hein. Il vous donne les pizzas, vous lui donnez l'argent et puis il s'en va, quoi. Quelqu'un de l'église, vous le faites rentrer dans votre cuisine ou dans votre salon et puis vous buvez un café avec. Et puis les amis proches, vous leur faites visiter toute la maison. Mais qui vient dans votre chambre et qui a le droit de fouiller dans les placards et dans, voilà, à part votre conjoint? Personne, on est d'accord? Dieu, il veut cette intimité-là avec nous, avec ma maison, avec ma vie. Il veut tout, quoi. Et Jésus, il est gonflé, quoi, parce qu'il rentre dans ma maison et il veut avoir une place, il veut aller fouiller dans tous mes placards, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je suis. Il veut aller, il veut devenir le Seigneur de toutes ces réalités-là. Et une église saine et missionnaire, c'est une église qui se consacre entièrement à ce Seigneur qui nous a délivrés. Nous avons été sauvés par lui. C'est lui qui nous a amenés là. C'est lui qui nous a amenés dans cette situation-là. Maintenant, il inspire Moïse, il lui donne les 10 commandements. Et si vous regardez bien les 10 commandements, c'est « Je veux être le Seigneur de tous les aspects de ta vie, de ce que tu as, de ce que tu es. » Et je crois que ce veau d'or, il fonctionne malheureusement même dans nos églises. Nous sommes tellement influencés par le temps et nous sommes tellement influencés par l'argent. Ce sont des valeurs qui sont les valeurs d'ici et qui nous empêchent d'aller là. Or, si notre temps appartient à Dieu, si notre argent appartient à Dieu, alors confions-lui toutes ses richesses. Autre question, avons-nous les moyens de devenir une église missionnaire et en bonne santé? Ça revient un peu à cette idée-là. Hein, quels sont nos atouts en matière de personnes, en question de ressources spirituelles, financières, communautaires? Quelles sont nos ressources? En responsable, au niveau de l'union, voilà. Et c'est là que je dirais que si on continue à ne compter que sur les moyens que nous avons aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Il va falloir trouver, au-delà des 5 pains et des 2 poissons, autre chose. Alors, on peut le prier, on peut dire « Seigneur, multiplie », ou on peut déjà y aller avec ce que nous avons. Ça a été une expérience intéressante. On n'avait pas le temps de se réunir en conseil. Et à un moment donné, on a lancé, puisqu'on n'a pas le temps de se réunir en conseil, on va faire une matinée de prière. Un conseil qui n'a pas le temps, il va prendre tout son samedi matin. Alors, bon, allez, fort exceptionnel. On va prier ensemble. Et en fait, le fait de tout se mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, la question de notre temps et de notre argent, on va le placer devant toi. Ça a changé complètement le cas de figure. Et il n'y a plus eu jamais de problème de est-ce qu'on a le temps pour l'Église. Bien sûr qu'on l'a. Et s'il faut, on le prendra ailleurs ce temps-là, quoi. Sur mon temps de travail ou sur mon temps familial, sur mon temps de loisir, je vais le prendre ce temps parce qu'il est à Dieu. Et je dirais peut-être qu'il faut que les responsables de l'Église aient bien pris et se posent la question, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps, assez de temps pour mon Église? Et si j'ai pas assez de temps, il y a 2 possibilités. Soit je peux pas être responsable de cette Église, soit je vais le prendre. Et je crois que c'est important d'oser aller au bout de cette réalité-là de nos temps et de nos ressources. Alors, croyons-nous qu'elles sont suffisantes pour aller de l'avant? Je pense que non, hein, on est d'accord? Avec l'aide de Dieu et sa grâce, on va continuer sur la même trajectoire, on va avancer vers une bonne santé et un esprit missionnaire, on va reconnaître qu'à travers ces procédés, nous allons rendre gloire à Dieu par nos ministères. Voilà, c'est ça, évaluer notre vime, c'est la terrasse, on n'est pas dans la maison là, on est sur la terrasse en train de regarder la mer et on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui nous manque dans notre vision, dans nos intentions et dans nos moyens pour aller plus loin. Alors après ce week-end, après ces 3 jours, ou plutôt ces 2 jours, peut-être que la vie de nos églises sera plus jamais la même, peut-être que la routine va continuer. La question, c'est de nous adapter. Et la difficulté, souvent, dans la vie de nos églises, c'est que on est passé de la stabilité à l'instabilité. Et puis, il y a une zone d'anxiété et du coup, on est revenu. Moi, plutôt que cette image, j'aime bien l'image du balancier. Pendant 15 ans, dans mon église à Valence, j'ai pris le balancier de l'horloge de l'église et je l'ai poussé comme ça. Avec mon énergie à moi. Voilà. Et chaque fois que j'ai lâché, qu'est-ce qui arrive? Ça revient de l'autre côté, quoi. Et avec la même énergie, en plus. Et ça, c'est extrêmement décourageant, quoi. Et justement, c'est, enfin, plutôt que de constamment essayer de bouger quelque chose qui va résister, ensemble se poser pour oser le défi et une nouvelle orientation. Et on en est là dans nos églises parce que bah, ce schéma-là nous a épuisés pour rien. On a fait des efforts et hop, là, on revient comme une vague, quoi, hein, qui avance et puis qui recule. Et là, Vitalité propose carrément de se poser, de prendre du recul pour avoir des nouvelles orientations. Des questions qui nous permettent de sortir de cette spirale infernale. Le besoin de changement est-il valide? Est-ce que nous avons confiance en ceux qui le proposent? Est-ce que cela contribue à notre vision? Si nous le faisons, est-ce que nous pourrons mieux servir Christ et les autres? Si nous ne le faisons pas, est-ce que nous le regretterons? Jésus le ferait-il? Est-ce que le diable s'y oppose? Est-ce que nous survivrons à ce changement? Est-ce que nous nous épanouirons si nous ne changeons pas? Vous voyez, des questions concrètes. Et il faut oser se les poser, ces questions-là. Je crois qu'il ne faut pas se dire bah, « Non, il n'y a pas de souci, on y va. » Oser se poser ces questions-là. Et c'est ça qui est terrible, c'est que suite à ce week-end, vous allez être dans cette position inconfortable dans laquelle je vous mets. C'est ici, ça ne va pas. Et là, c'est un peu loin. Et du coup, voilà, je suis en train de créer un malaise. Et j'espère que ce malaise, vous allez le garder en vous. Parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on se bouge et on accepte de changer. Un leadership qui s'adapte. Je vous propose pas un feu et de prendre des décisions de changement radical. Je vous propose juste de mettre le thermostat un peu plus chaud, quoi. De mettre un petit peu plus de prière, de mettre un petit peu plus de réflexions qui font mal, de mettre un petit peu plus de chaleur. Mais si, à un moment donné, le thermostat est trop chaud, c'est la question hein, qu'on posait hier, il faudra le refroidir, quoi. Enfin, voilà, il faut trouver la bonne tension. Il faut se faire mal, mais pas trop non plus, quoi. Enfin, vous voyez, il faut sortir de son confort, mais il faut pas non plus devenir malade, quoi. C'est pas l'objectif. Mettre le thermostat à la bonne température. Quand vous allez proposer... Je vais faire un autre schéma. Quand vous allez proposer le changement à l'église, il y a cette fameuse courbe là qui est assez significative, quoi. Ce qui se passe alors dans toute organisation, hein, ça peut être même une entreprise, c'est que vous avez à peu près 15% qui vont être à fond pour, et vous allez avoir à peu près 15% de l'église qui va être à fond contre. Et puis entre les deux, vous avez, c'est quoi la moitié de 30, 70, ça fait 45. 35, hein. Mais c'est schématique, hein. On est d'accord. Qui sont plutôt pour ou plutôt contre. Et là, au niveau des responsables de l'Église, c'est super important. Au lieu de s'acharner sur ceux-là, en général, les violents opposés, ceux qui sont contre le changement, c'est eux qui nous omnibulent. Et de dire, on va calmer le jeu, on va juste s'occuper de ceux-là. Ça, c'est les plus intéressants. Parce qu'on peut les convaincre, ceux-là. On peut faire quelque chose. Ceux-là, bon, bien sûr, c'est ceux qui sont à fond pour le projet. Ceux-là, ils sont déjà convaincus. Mais en fait, pour arriver à un projet de changement qui embarque tout, il faut travailler ici. Il ne faut pas forcément travailler là. Pas s'omnibuler. Et puis, on a le droit d'être contre, quoi. Hein, de dire dans l'Église, il y en a Vitalité. Oh là là, j'ai une allergie. Vitalité. Il me fatigue avec Vitalité. Ben, tu as le droit. Hein, tu as le droit. On n'est pas dans la pensée unique dans une Église. On a le droit de pas être d'accord et on a le droit d'être là-dedans. Il n'y a pas de souci. Et l'idée, c'est de convaincre petit à petit. C'est pour ça que la méthode qui est proposée, c'est de dire on va travailler avec ceux qui sont vraiment convaincus. On va travailler avec ceux-là. Et ils vont former une équipe ensemble de quelques personnes qui vont réfléchir à toutes ces données-là à l'aide de quelqu'un. Une personne de la commission d'organisation va vous aider, bien sûr. Mais cette équipe va se former et réfléchir à différentes choses. Alors, il y a quelques travaux qui sont proposés. Là, ce matin, je vous ai proposé le récit de l'Exode. Mais se poser la question dans l'Église, le récit, qui correspond à notre situation. Le récit biblique qui correspond, qui évoque quelque part notre situation. Débriefer l'expérience que vous aurez vécue pendant ce temps, pendant ces deux jours. Travailler sur la charte relationnelle, on va en parler hein, juste après. Faire parler l'histoire, essayer de revoir ben, qu'est-ce qu'on a vécu comme dynamique, qu'est-ce qu'on a vécu aussi comme frein dans notre histoire. Faire circuler l'information, informer, organiser des choses qui permettent de faire passer l'information. Ensuite, créer un service d'intercession, c'est super important. Prier pour que la vitalité soit diffusée dans l'Église. L'évaluation de l'environnement, quel est le autour de nous, autour de l'Église, quel est l'environnement, les voisins proches, voire les gens que nous pouvons atteindre. Et puis, évaluation interne. Ça fait huit choses à faire. Ça peut se déléguer, c'est-à-dire que cette équipe peut déléguer à d'autres personnes, de là ou même de là. Voilà, par exemple, pour faire parler l'histoire, ben, c'est intéressant d'aller voir les personnes qui sont depuis la création de l'Église. Voilà, c'est huit travaux qui sont proposés pour l'équipe Vitalité. Une charte relationnelle, je vous donne juste un exemple qui explique ce qu'est une charte relationnelle, mais c'est important que vous écriviez votre charte relationnelle. Donc je vous donne un exemple, hein, c'est une charte relationnelle qui a été écrite. Nous cherchons à nous faire progresser les uns les autres, non à nous dénigrer. Nous respectons les responsables de l'Église, les pasteurs et les autres ministères. Nous cherchons à communiquer clairement, entièrement et directement. Nous proposons nos avis avec charité et humilité. Nous nous engageons dans nos relations amicales avec authenticité et fiabilité. Nous croyons en le meilleur de chacun et nous donnons à tous le bénéfice du doute. Nous cherchons l'intérêt collectif de l'Église, non le seul intérêt d'un de ses groupes. Nous pensons les désaccords, les conflits et les évaluations normaux et naturels. Nous sommes prêts à nous laisser déranger pour l'intérêt de l'Évangile. Voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. Mais c'est ça une charte relationnelle, c'est-à-dire, quelque part, comment on va se parler. Voilà. Tout le groupe qui est là, il y en a qui sont à fond pour, il y en a qui sont à fond contre, il y en a qui sont un peu indéterminés, un peu entre les deux. Ben, ça vaut la peine, de se dire, ben, la manière de se communiquer les uns aux autres, on peut se respecter dans nos avis différents. On ne cherche pas la pensée unique, on ne cherche pas à imposer. Parce que si ça vient de Dieu, eh bien Dieu est capable de convaincre, de toucher tous ceux qui l'entendent et l'écoutent. Ça revient à la question qu'Émile posait hier, de dire, ben, il ne faudrait pas que le projet, on dise à certains de l'Église, c'est pas pour vous, quoi. Voilà. Ceux-là, même, on cherchera à les gagner, à les convaincre que vitalité, c'est un mot et c'est pas le mot qui est important, c'est une réalité spirituelle qui nous amène tous, les uns et les autres, plus loin. Voilà, ben, je crois que j'ai fini là. Juste finir par ce texte magnifique d'Éphésiens 4, 16, qui dit « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Il est beau ce texte, hein ? Voilà. C'est le Seigneur qui va faire ça, ce travail parmi nous. Ce n'est pas nous qui allons le faire, ni l'équipe évangélisation, ni l'équipe vitalité de l'Église. C'est le Seigneur qui va le faire. C'est son projet. Juste, posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus nous demande aux uns et aux autres.